Nous voulons prier avant de commencer à partager la parole du Seigneur. Notre Dieu, nos cœurs et nos vies sont comme des terrains que tu veux travailler, dans lesquels tu veux semer ta parole, non pas simplement pour qu'ils la reçoivent, mais pour que nous portions du fruit, pour que cette parole accomplisse son œuvre en nous, une œuvre de transformation, mais aussi une œuvre de paix, une œuvre de guérison. Alors Seigneur, ce matin, que ta parole puisse par l'œuvre, l'action de ton esprit, nous apporter ce dont nous avons besoin, ce que toi tu as prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. J'ai, depuis 4 semaines, été confronté à plusieurs décès dans nos vies personnelles, au niveau du travail, au niveau aussi de personnes qui, autour de nous, et Michel était aussi avec moi là-dedans, sont partis, nous ont quittés. Donc depuis 4 semaines, j'ai l'impression d'aller souvent à des obsèques. La sœur d'une collègue qui est partie après une longue maladie. Un homme avec lequel j'ai travaillé pendant de très très longues années et qui a été sur l'Orient un homme engagé par sa foi, mais aussi par son action auprès des plus pauvres, des plus démunis, des hommes et surtout des femmes en difficulté et en souffrance, et qui a consacré sa vie pour cela. Un autre homme qui était l'animateur du groupe de jeunesse, ou en tout cas quelqu'un qui est intervenu au groupe de jeunesse quand Michel était jeune, parce que Michel a été jeune, hein, n'en doutez pas. Et voilà, ces deuils successifs, ces célébrations à répétition ont fait qu'il y a 8 jours, j'ai eu cette pensée de méditer sur ce texte de la première épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, il y a 8 jours, j'ai commencé à réfléchir, méditer sur cette parole. Et puis, l'actualité m'a rattrapé. Ce qui a été évoqué par Laurent, avec au début de cette semaine, mais j'étais déjà dans la préparation. Après, je me suis dit, est-ce que je dois, pour ne pas être dans l'actualité, la mettre de côté? Puis j'ai gardé quand même cette parole. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il se trouve que samedi, un des grands écrivains de notre époque, Jean d'Ormesson, a terminé un livre. Il y en a un qui va paraître au mois de janvier, mais il avait promis à sa fille Héloïse d'écrire un autre livre. Et samedi, il a mis la dernière phrase et sa fille a retrouvé la dernière page et les derniers mots qui ont été lus dans une émission là, il y a quelques jours. Et il terminait son nouveau livre qui va paraître, je pense, d'ici quelques mois par ces mots. Une beauté pour toujours. Tout passe. Tout finit. Tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens? Il n'est pas impossible, 3 points de suspension, mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. Cette feuille était posée comme la dernière feuille du dernier livre de Jean d'Ormesson qu'il a écrite samedi, 2 décembre. Et sa fille a découvert cette lettre-là. Alors je suis allé un petit peu m'interroger sur être étranger. Qu'est-ce que pour lui ça pouvait être? Et en fait, il Dans son œuvre, il y a deux livres que vous pouvez retrouver. Il y en a un dont le titre est assez étonnant, mais les titres des livres de Jean d'Ormesson étaient étonnants, c'est « Dieu, sa vie, son œuvre ». C'est ambitieux. Et en fait, c'est un homme qui s'est interrogé sur Dieu à partir de la création. Tellement interpellé par la beauté de la création. Il disait, entre autres, comment ne peut-on pas s'interroger sur Dieu quand on voit le soleil se lever chaque matin ? Une telle création. Et puis, il a écrit une histoire du juif errant. Vous savez, c'est cette histoire du juif errant, c'est une tradition dans la littérature depuis de nombreux siècles. Edmond Fleg en avait fait un livre, et puis d'autres avant lui. Le juif errant, c'est ce juif qui, sur le chemin de croix de Jésus, aurait refusé, cordonnier qu'il était, se trouvant sur le chemin du Christ, de lui donner un verre d'eau alors que Christ marchait vers Golgotha. Et la tradition chrétienne a imaginé que ce juif était condamné pour l'éternité à errer sur cette terre. Et Jean d'Ormesson a écrit son histoire, son récit du juif errant. Et ça parle en fait de sa relation avec Dieu. Et il disait ceci, et je voulais vous le lire en préalable de ce partage, de cette méditation, ce qu'il disait lui. Ce qui ne laisse pas de m'étonner et de m'émerveiller, il le disait dans une interview en 2014, ce qui ne laisse pas de m'étonner et de m'émerveiller, c'est l'incarnation. Dieu s'est fait homme. Je sais bien avec Renan que dans de nombreuses religions anciennes, les dieux prennent des formes humaines. Zeus prit les traits d'Amphitryon pour séduire Alcmène. Mais le Dieu des chrétiens est le seul qui s'incarne par amour. L'amour est la grande nouveauté du christianisme qu'on retrouve dans d'innombrables propos du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les chrétiens le savent, quand ils font le bien, c'est à l'imitation de Dieu. Même si je suis rempli d'admiration pour les non-chrétiens qui font aussi le bien. Il disait cela le 12 juin 2014 à un journaliste qui l'interrogeait sur sa foi. Je suis en admiration devant l'incarnation de Dieu. C'est un acte d'amour. Quelqu'un lui disait, dans la même période, pour un immortel comme vous, qui faites partie de l'Académie française, qu'est-ce qui serait le plus terrible au moment de votre départ ? Et il disait, ce serait le départ de Cocteau. D'être à l'image du départ de Cocteau. Le journaliste lui disait pourquoi ? Cocteau est mort, un des plus beaux écrivains de théâtre. Il est mort, c'était une intelligence étonnante, vive. Et le lendemain, Piaf est morte. On a oublié que Cocteau était mort. Dit pour un immortel comme moi, ce serait terrible. Il est mort mardi, et vous savez qu'un autre est décédé le mercredi, ce qui fait que. Il avait eu comme ça une pensée. C'est terrible pour un immortel. Alors, j'ai retenu ce verset de l'épître de Pierre qui, à l'instar de tous ses départs, nous rappelle de manière forte que nous sommes pèlerins et voyageurs. Nous avons tendance à l'oublier et à croire que nous sommes immortels. Nous le sommes dans la pensée, dans la réalité de Dieu. Mais notre vie sur cette terre a un commencement et une fin. Et un de mes professeurs à Colding disait, sauf si nous faisons partie de cette génération, et là j'entends toujours avec beaucoup d'acuité ce que dit Laurent, sauf si nous faisons partie de cette génération qui voit et qui connaît le retour de Christ. Et quand j'entendais ça, quand j'avais 21 ans, je disais, oui Seigneur, viens, viens bientôt. Puis en même temps, je me disais, oui, mais j'ai que 21, 22 ans, j'aimerais peut-être profiter de chemin. Et maintenant, j'en ai 60 et je suis plutôt du genre à dire, oui, Seigneur, viens bientôt. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Alors, être pèlerin, c'est être dans une position, une attitude de voyage. Nous sommes des voyageurs, comme dit l'apôtre Pierre. Nous sommes en transit sur cette terre. Et des voyageurs, ce sont par principe des personnes qui ont avec eux des bagages. Mais quand on est voyageur, on ne prend pas des bagages trop lourds, trop importants. On a conscience qu'il nous faut, partir en voyage pour aller d'un point A à un point B. On pourrait parler aussi de ces voyages intérieurs. Quels sont les voyages que Dieu nous invite à faire en dedans de nous, où nous devons aller de là où nous sommes, vers là où Dieu le désire et le veut, ce qu'il attend que nous devenions, c'est un voyage. C'est certainement le plus grand et le plus beau des voyages. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas quitté la Bretagne, peut-être pas quitté le Morbihan, mais qui ont été capables de faire un voyage à l'intérieur d'eux-mêmes qui a changé leur vie, alors que d'autres ont fait le tour de la terre et sont restés intérieurement au même point. Donc, je parle aussi de ces voyages intérieurs que nous faisons et qui marquent notre évolution, notre transformation personnelle. Je parle du voyage de la vie, de notre naissance à notre mort. Alors, il se pose la question, qu'est-ce qu'on met dans nos bagages? Quelles sont les règles pour remplir sa valise? Ce qui est nécessaire, on appelle ça un nécessaire de voyage. Ce qui est important, ce qui est agréable. J'ai changé mon téléphone et je ne retrouve plus ma playlist de musique. Donc, dans le train, je ne peux plus écouter. C'était important pour moi. Qu'est-ce qu'on emporte? Quelles sont les choses que nous emportons dans notre voyage, y compris notre voyage intérieur? Quel est le poids de ce que nous emportons dans notre voyage? Ah, il y a parfois, moi, quand je vois les valises que fait mon épouse, je peux en parler, elle n'est pas là. Elle est à Paris pour son anniversaire, donc elle a passé le week-end avec ses deux filles. Et quand je vois les valises qu'elle fait, elle prévoit tout. Ça m'énerve. Je trouve que ça fait des valises importantes, même pour 2 ou 3 jours. Alors je m'énerve, je dis, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et puis quand on est loin, tout à coup il m'arrive un pépin, puis je dis, est-ce que tu as emmené ça? Et là elle me dit, ben, à ton avis. Et là je suis très content qu'elle ait prévu ce qui était important pour elle et que je n'avais pas prévu moi. Donc j'arrête de faire des remarques au moment du départ, parce que je me dis, il y a peut-être dedans des choses dont je vais avoir besoin. Qu'est-ce que nous avons? Quel est le poids de ce que nous emportons dans notre voyage? Y compris le poids que nous portons intérieurement, et que nous estimons être nécessaire, et qui nous surcharge et qui nous empêche certainement d'avancer. Ah, quels sont les fardeaux? Les choses que nous portons sans que nous ayons besoin véritablement de les porter. Comment, ce que nous emportons dans nos bagages dépend aussi de notre environnement, c'est-à-dire les personnes qu'on va rencontrer. Ma femme est partie, je l'ai emmenée à la gare vendredi matin, elle avait un grand sac, et dedans, vous savez ce qu'il y avait? Les cadeaux de Noël pour nos petits-enfants, parce qu'elle allait faire un petit crochet par la Suisse. Donc elle était chargée d'un très gros paquet avec des jouets en bois, etc. Ouais. Qu'est-ce que nous portons dans nos bagages, mais que nous portons en fonction des personnes que nous allons voir, rencontrer, celles qui sont autour de nous ou celles qui ne sont pas autour de nous? Quel est le poids de nos bagages intérieurs aussi? Une petite phrase que j'aime bien prononcer, c'est « Dis-moi ce que tu emportes en voyage et je te dirai qui tu es ». C'est très intéressant de voir, si vous ouvrez ma valise, quand je pars même pour 2 jours à Paris, vous seriez étonné de voir le livre que je suis en train de lire, ma Bible, 2-3 écouteurs au cas où il y en a un qui casserait. Oui, je suis prêt. L'ordinateur, bien évidemment, pour le travail, mais aussi pour le plaisir. Dis-moi ce que tu portes et transportes en toi, et Dieu te dira aussi qui tu es, si tu laisses le Saint-Esprit te parler. Quel état d'esprit nous anime quand nous partons en voyage? Quand on y va pour le travail, on dit « ouais, bon, j'aimerais mieux rester à la maison ». Quand on va voir des proches, des enfants, des amis, là, tout à coup, il y a l'envie. Puis quand on part dans un grand voyage, je pense à Émilie qui est partie pendant plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, Au début du voyage, il y avait à la fois de l'excitation, puis aussi un petit peu de peur et de crainte, hein, parce que c'est l'inconnu. Quelles sont les émotions qui nous habitent quand nous partons en voyage? Alors, j'avais dans l'idée de parler de partir en voyage et de dire que pour partir en voyage, il y a quelques recommandations, vous savez. D'abord, partir en voyage, ça demande de se lever tôt, de préparer ses affaires et de se mettre en route. Un voyage, ça ne se prépare pas de manière improvisée. Quand je suis parti pour trois ans, je pensais en tout cas partir au moins une année au Danemark, quand j'avais 21-22 ans. J'ai préparé mon voyage, je partais le vendredi soir au Danemark, j'ai commencé à préparer mon voyage largement en avance, au moins le vendredi à midi. Donc le train était à 18h, à 14h j'ai acheté ma valise. Donc je suis quelqu'un de très prévoyant, vous voyez, je prépare très en amont. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus prévoyants que moi. Il faut se lever tôt, il faut être dans une dynamique. Et Dieu nous attend aussi dans notre dynamique pour aller avec lui, pour avancer, pour marcher pour lui, pour décrocher de là où nous sommes et aller vers là où il nous attend. Il s'agit de prendre la bonne route, pas se tromper. Je suis un spécialiste dans l'art de se tromper. Donc j'ai à la fois au niveau familial et au niveau professionnel des gens autour de moi qui balisent mon terrain. Donc je me trompe moins. Comment je laisse le Saint-Esprit là aussi me diriger, me donner la bonne route pour avancer jour après jour. Se renseigner sur sa destination. Où est-ce que je vais? Il y a tellement de chrétiens qui marchent et qui ne savent pas très bien où ils vont. Ça m'arrive parfois avec Michel d'interpeller des personnes qui s'interrogent sur leur devenir, leur place dans l'Église. Et puis on dit, mais quel est votre appel? Où est-ce que Dieu vous attend? Où est-ce qu'il veut vous conduire avec ce que vous êtes là, maintenant? Et parfois, on a des réactions surprenantes. Je ne me suis jamais posé la question. Où est-ce que je dois aller en tant qu'individu dans la pensée de Dieu? Le fait de vouloir voyager léger, hein, Jésus disait à ses disciples, ne prenez ni or ni argent, etc. Ah, parfois, on voyage tellement lourd que notre marche avec Dieu est compliquée. Et puis, il y a aussi cette notion, on a le droit d'avoir des compagnons de route. Hein ? C'est le voyage du pèlerin, qui est un très très vieux livre, qui date des années 1500, je crois, ou même avant. Le voyage du pèlerin, qui imagine le chrétien voyager dans sa vie. Il avait deux compagnons de route qui marchaient avec lui. Il y en a un, c'était Fidélité, j'ai oublié le nom du deuxième. Mais on a la possibilité d'avoir des compagnons de route. Et l'Église est peut-être là aussi là pour que nous ayons des compagnons de route. Alors, des voyageurs, est-ce qu'il en existe dans l'Écriture dont nous pourrions nous inspirer? Eh bien, il y en a un que j'aime bien, c'est Naaman. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, verset 3, il est dit ceci. « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. » Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Naaman partit avec 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Voilà avec quoi il est parti en voyage. À peu près ce que vous emmenez quand vous partez en vacances, je suppose, au moins pour les vêtements de rechange. Non ? Pour le reste, je ne sais pas. Quand je lis ça, je me dis toujours, Naaman, c'est le type de chrétien de la pré-réformation, de la pré-réforme. C'est-à-dire que c'est un homme qui se dit, je vais aller vers Dieu et je vais lui exprimer mon attente, Et en même temps, j'y vais pas les mains vides. Ça doit coûter quelque chose. Nous avons beaucoup entendu parler de la découverte fondamentale que fit Martin Luther au XVIe siècle dans le fait que Dieu est un Dieu de grâce. Grâce. Et il a introduit ce qu'on appelle la proclamation des cinq solae, sola scriptura, les écritures seulement, sola fide, la foi seulement, sola gratia, par la grâce seulement, solus Christus, par Christ seulement, soli deo gloria, pour la gloire de Dieu seulement. Ça a révolutionné la vie de millions d'hommes et de femmes, la vie de l'Église. Et comme on en a parlé il y a quelques semaines, l'histoire de notre monde. Les Écritures seulement. Naaman est parti, il n'avait pas connaissance de l'Écriture. Mais il y a une parole qu'il a rencontrée, c'est une parole portée par une petite fille. Il y a parfois des canaux que Dieu utilise qui sont des canaux qu'on pourrait mépriser. Parce que pas suffisamment important. Combien de petites voix sont venues dans notre vie pour nous dire quel était le chemin et la pensée de Dieu. Et nous ne l'avons pas écouté. Et pourtant, lui, cette voix-là, il l'a entendue. Et il s'est mis en route. Il est parti en voyage. Parce que, par la foi seulement, il a cru que cela pouvait s'accomplir. Il a fait au moins un voyage sur la base d'une parole qui l'a mis en route et d'une foi qui lui a fait dire « Ce Dieu d'Israël peut effectivement, par l'intermédiaire du prophète, accomplir son œuvre en moi. » Mais il n'est pas allé plus loin et c'était la pensée de Dieu pour lui de découvrir le chemin de la grâce. Naaman entend cette parole et il se met en route. Mais il se met en route avec 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or, 10 vêtements de rechange. Et lorsqu'il arrive chez Élisée, il arrive là, il se met un petit peu en colère parce qu'Élisée ne fait pas ce qu'il attendait lui. C'est vrai qu'on a tendance à se mettre en colère aussi, à s'énerver, quand Dieu ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse. C'est quelque chose qui nous est naturel. En tout cas, dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai découvert constamment et que je continue à découvrir. Quand je veux que le chemin aille dans cette direction-là, je m'attends à ce que Dieu fasse ce chemin-là avec moi. Et pas l'inverse, que je fasse ce chemin-là avec lui. Naaman s'énerve et puis il y a un serviteur, là aussi une parole qui vient le rencontrer, celle d'un serviteur. L'histoire de Naaman est marquée par la parole des petits, des insignifiants. De la même manière qu'aujourd'hui, le message de l'Évangile est porté par quelqu'un qui est né dans une étable, une voix insignifiante, un petit, quelqu'un qui est méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous sommes dans la même configuration. Qu'est-ce que cette parole-là peut apporter à un académicien qui est immortel ? Et pourtant, il dira, la plus belle chose qui soit, c'est l'incarnation de Dieu dans l'homme. Dans l'homme. Moi, j'aime cette humilité. Vous savez, mon épée d'académicien, mon habit vert, ça n'a rien d'important. L'immortalité n'est pas là. C'est dans le miracle de cette incarnation. Et Naaman va se trouver confronté à la guérison. Il va vivre cette guérison, comme nous pouvons nous aussi aujourd'hui vivre des guérisons du cœur, de la vie, dans notre voyage avec lui. Mais il n'a pas encore découvert ce qu'est la grâce. Alors il revient vers Élisée, et puis, retournant vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, lorsqu'il arrive, il se présente devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman est invité par Élisée à découvrir le Dieu de grâce. J'aime beaucoup ce texte. Élisée serait sorti de sa maison pour bénir Naaman, poser ses mains. Certainement que Naaman aurait vu en Élisée celui qui avait le pouvoir de guérir. Il a refusé de sortir, il a envoyé son serviteur afin que le regard de Naaman puisse se tourner vers celui qui agit, vers le Tout-Puissant. Alors, Naaman peut dire, grâce à la sagesse d'Élisée, « Maintenant, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la surface de la terre que le Dieu d'Israël. » Alors, est-ce que nous aussi, dans nos marches, nous pouvons être dans cette position de cœur de dépendre d'un Dieu qui est le Tout-Puissant? Un Dieu de grâce. Naaman est parti de son pays avec son or, son argent et ses vêtements. Et il avait dans la tête que toute peine mérite salaire et que si Dieu agit, il ne faut surtout pas que je lui sois redevable. J'aurai une dette envers Dieu. Position inconfortable dans le cœur de l'homme, avoir des dettes vis-à-vis de l'autre. Je lui suis redevable, même si c'est Dieu. Et en fait, il découvre un Dieu de grâce. Alors, Naaman dira, puisque tu dis non, c'est une version que j'aime bien, hein. Dans d'autres, il est dit, Naaman s'adressant à Élisée, puisque tu refuses, mais j'aime mieux cette formule, puisque tu dis non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus d'offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Marché de dupes, non ? Ne trouvez-vous pas ? N'est-ce pas un marché de dupes ? Quelque part, je pense que c'était ça dans la tête de Géasi, vous savez, le serviteur d'Élisée. Le type qui est là veut offrir de l'or, de l'argent, des vêtements. Élisée refuse et en échange, qu'est-ce qu'il lui donne ? Des sacs de terre. Pourquoi des sacs de terre ? Et en fait, on découvre que pour Naaman, cette terre, ça lui permettrait d'avoir un espace où, tout en étant à l'étranger, cette terre-là d'Israël serait le lieu que ses pieds fouleraient pour offrir un sacrifice à Dieu. Hein ? Oh, est-ce que je vais oser une analogie tirée par les cheveux ? Je vais le faire quand même. En hébreu, la terre, c'est Adama. Adama, ça a donné le mot Adam. Ça veut dire que quelque part, Naaman est passé dans le royaume de la grâce et il dit maintenant, je veux me tenir sur la terre du salut. Cette terre-là, la terre d'Israël, où que je sois, je veux. Et que tous les sacrifices que je ferai, ce soient des sacrifices qui soient ancrés dans la terre d'Israël, la terre du salut. Quel est le fondement que nous mettons sous nos pieds ? Sur quoi reposons-nous ? Quel est ce que nous avons comme bagage ? Dans nos bagages, est-ce que nous avons aussi cette terre ? Alors j'imagine si on devait... Et je pense parfois, un petit peu, c'est comme cela quand on va trop loin dans, je dirais, la place qu'Israël peut occuper dans notre vie de chrétien aujourd'hui. Est-ce qu'on doit aller chercher des terres, des sacs de terre en Israël pour les mettre dans notre église ? Et puis on reviendrait à une bonne tradition, le sol en terre battue, en Bretagne. Quand Francine a commencé sa carrière ici en Bretagne, elle avait encore des patientes qui avaient des cuisines en terre battue. Est-ce qu'il faudrait, pour que notre Église soit plus bénie, plus visitée par Dieu, que ça ait plus de sens, que nous mettions un vrai sol en terre battue d'Israël ? Il faudrait les porter, ces sacs. Mais parfois, est-ce que dans nos vies, nous ne portons pas des sacs de terre qui ne sont pas utiles, qui sont du passé ? Là, Naaman dit, ce que je veux, c'est que ce soit la terre du salut. Adama, homme, hein, j'irai plus loin. Est-ce que ce n'est pas le fils de l'homme, l'Adam, selon le regard de Dieu, qui s'est donné sur la croix à Golgotha, qui est le sol sur lequel nous avons à construire. Le Fils de l'homme, le Fils d'Adam. De même que le péché est entré dans le monde par un homme, le salut est entré dans le monde par le Fils de l'homme. C'est ce fondement. Et même si les circonstances de la vie, dit Naaman, me conduisent à rentrer dans le temple de Rimmon, le dieu araméen, je veux que mes pieds soient sur cette terre-là, là où je suis, et quand je rentre dans le temple, même si je suis au milieu du monde, eh bien que la grâce de Dieu continue à m'accompagner. Même si le roi est obligé de s'appuyer sur mon bras et que je rentre dans... Où que je sois dans ce monde, au milieu du péché, que la grâce de Dieu m'accompagne. N'est-ce pas ce à quoi Dieu nous appelle à vivre dans notre voyage ? Qu'est-ce qu'il y a dans nos bagages ? Quels sont les fondements, les choses essentielles ? Sur quoi repose notre vie aujourd'hui ? Croyons-nous encore que nous pouvons négocier avec Dieu, avec de l'or, de l'argent, des bonnes actions ? Le nombre de fois où on prêche, de paroles que l'on donne, de chants que nous jouons à la guitare, est-ce que nous croyons que c'est cela qui va être le plus important? Non. C'est la grâce que nous vivons. Il n'est pas possible d'acheter par nos œuvres notre comportement chrétien la volonté de Dieu de nous bénir et de nous faire du bien. Alors, quelles sont les règles pour remplir ma valise dans ce voyage? Est-ce que ce qui est nécessaire, c'est ce que je crois ou ce que Dieu veut déposer en moi? Il y a dans la vie de Naaman, un changement. Il part avec de l'or, de l'argent. Je ne sais pas si quel était le poids de la terre au regard du poids d'or et d'argent. Si l'un était plus lourd que l'autre. Mais en tout cas, ça fait penser à ce passage de l'Évangile qui dit « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. » Parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce que notre vie repose sur ce roc, sur cette terre-là? Il y a un autre voyageur, c'est le peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël est parti pour un long voyage de 40 années en ayant refusé d'entrer dans la terre promise. Pour autant, ils avaient des bagages avec eux. Et ils avaient une valise, une grosse valise, en bois. Elle était tellement grosse qu'il fallait des barres pour porter cette valise-là. Et cette valise-là contenait un vase avec de la manne, un bâton et la deuxième édition des tables de la loi. Oui, parce que la première, elle avait dû être cassée compte tenu de leur désobéissance. C'était leur valise. Ils étaient partis avec cela. Alors, j'ai envie de dire que si Naaman est une représentation du croyant avant la Réformation, moi je pourrais presque dire que le peuple d'Israël est un exemple du croyant de la Réformation, dans une certaine mesure, s'entend. Pourquoi ? Parce qu'il a reçu une révélation du salut par grâce. Être esclave en Égypte, voir la mer rouge s'ouvrir, voir Dieu descendre sur la montagne et quelque part bénéficier de ce salut-là, non pas du fait de leur mérite, mais parce que Dieu les a choisis et leur a dit « Voilà, je vous prends pour moi et je vous libère », eh bien, c'est une découverte de ce Dieu tout-puissant. Le voyage d'Israël se passe autour de ce qu'il y a dans cette valise. Que mettre dans nos valises? Eux, ils avaient un vase de manne, un bâton, des tables. Ça signifie qu'ils avaient un souvenir de qu'est-ce qu'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Les tables de la loi, c'est cela. Quelle est la place? Et ils ne voyageaient qu'autour de cette valise qui les précédait et du contenu de cette valise, cette arche d'alliance. Dieu était sur l'arche. Quand la colonne de feu la nuit se levait, il marchait. Quand la colonne de fumée le jour se levait, il se mettait en marche. Il suivait ce qu'il y avait dans ce coffre et ce coffre lui-même. La parole de Dieu qui leur disait « Voilà ce que j'attends de vous ». Est-ce que dans notre valise, dans notre arche intérieure, il y a de la place pour la parole de Dieu? Je lisais des livres qui sont au marché de Noël. J'ai découvert des choses vraiment très, très intéressantes. Je vous invite à aller voir ce marché de Noël et les livres qui y sont vendus. Et notamment, il y a deux livres qui sont écrits par un couple. J'ai découvert que c'est un livre pour 365 jours. C'est bien, pour chaque jour de l'année. Et dans ce livre-là, vous avez une méditation qui est faite par un couple. Et j'ai découvert que le couple était un couple de 20 ans. Mais à l'intérieur, ce qui encore augmente la qualité, il y a des dessins humoristiques qui sont faits par Odersé, un dessinateur suisse. Donc c'est vous dire, un breton et un suisse, un couple de bretons et des suisses, ça peut donner que quelque chose de remarquable. Mais il y a, dans ce livre-là, quelque chose qui est flagrant. Chaque jour, la parole de Dieu est donnée pour qu'elle vienne habiter chaque journée de notre vie. Est-ce que nous sommes aussi de ce peuple pour lequel la parole de Dieu est au centre de sa vie et quelque part fait partie de ce que nous emportons avec nous? Est-ce qu'elle dirige, conduit notre vie avec l'aide du Saint-Esprit? Il y avait le bâton d'Aaron qui parlait simplement de cet épisode où il y avait un moment de révolte. Et puis Moïse fait dire bien que tous les chefs, les princes des tribus, mettent leur bâton sous la tente de la réconciliation. Et puis Aaron mettra son bâton. Et le lendemain, le bâton d'Aaron avait fleuri, poussé des fleurs et porté des fruits d'amandier. C'est une parole, une expérience qui parle de la place de l'autorité de Dieu dans nos vies. Qui aura autorité? Les princes de ce monde? Les princes d'Israël? Ou est-ce que c'est celui qui parle et qui représente le Seigneur? Est-ce que c'est Christ lui-même qui a cette verge? Il y a un texte un petit peu mystérieux qui parle au sujet de la bénédiction d'un des fils de Jacob, j'ai oublié lequel, Judas. Le bâton, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de ses pieds. On ne sait pas le Shiloh. On sait pas ce que, mais en tout cas, il y a un bâton d'autorité. Et il représentait ce Messie à venir. Est-ce que l'autorité de Christ est dans notre valise, dans ce qui fait, je dirais, autorité dans ma vie, et la manne d'un Dieu qui me nourrit chaque jour? Sa grâce, dit une parole, se renouvelle toutes les semaines, tous les mois. Chaque matin, effectivement. Sa grâce se renouvelle chaque matin. Et si ma femme me disait, tu sais, je te ferai à manger un jour sur deux, malgré mon amour pour elle, je grimacerais. Mais elle me donne à manger tous les jours. Elle me fait à manger tous les jours. Bon, si elle n'est pas là, comme en ce moment, je m'en occupe tout seul. Mais Dieu me dit, ma grâce se renouvelle dans ta vie chaque matin. Est-ce que nous portons cela dans notre coffre, dans notre valise? Ou bien est-ce que parce que c'est absent de ma vie, je suis dans la tristesse, dans l'affliction, dans le mécontentement, parce que je n'ai pas cette assurance, cette certitude d'un Dieu de grâce qui prend soin de moi chaque jour? On pourrait encore continuer cette exploration du contenu de cette valise. Il y a Walter Zanzen, qui est un ami que Michel et moi connaissons, qui est pasteur à Genève, et qui, dans une prédication où il parle du psaume 23, évoque ce Dieu tout suffisant. Vous savez, El Shaddai, tout puissant, tout suffisant, c'est le nom de Dieu. Et au travers du psaume 23, il explique, verset après verset, comment ce Dieu est véritablement un Dieu tout suffisant. Tout suffisant. Est-ce qu'il est ce Dieu tout suffisant dans ma vie aujourd'hui? Il veut le devenir. Mais est-ce que je suis prêt à l'accueillir, à le recevoir, malgré les conditions dans lesquelles je vis, malgré les circonstances, malgré mes ressentis, mes peurs, mes craintes? Est-ce que je peux m'appuyer? Et puis, il y a trois voyageurs, que je vais terminer avec cela, parce que c'est trois voyageurs que dont on va entendre parler dans les semaines qui viennent. C'est qui ces voyageurs? Alors les rois, je ne sais pas, mais les mages. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et quelques versets plus loin, il est dit, après avoir entendu le roi Hérode, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Très étrange, ne trouvez-vous pas, ces mages qui apportent eux aussi trois cadeaux au regard de cette arche qui portait trois éléments. On est toujours dans de la représentation très symbolique. Les mages viennent avec de l'or parce qu'ils proclament, reconnaissent, affirment que malgré l'environnement qui est là, une simple bergerie, de la paille, de la pauvreté visible, celui-ci est le roi des rois. Est-ce que nous proclamons dans notre vie, est-ce que c'est une certitude dans notre cœur aujourd'hui que Christ est le roi des rois? Quel que soit ce que voit le monde, j'entends et je lisais encore récemment ce que le monde considère qu'est Christ. Une idée, une philosophie, au mieux une belle pensée, mais tout juste au niveau d'un enfant couché dans une mangeoire, pas plus. Il y a des choses tellement ayant des valeurs plus grandes pour le monde aujourd'hui. Ils ont apporté de l'or. Je lui apporte cette proclamation dans ma vie. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ils apportèrent de l'encens, c'est-à-dire la représentation de la prière, de l'adoration que l'on avait dans le temple depuis tellement de siècles. L'autel des parfums qui faisait monter l'encens jusqu'au ciel pour dire « Seigneur, regarde la prière permanente de ton peuple qui te loue et qui t'adore. Tu es celui et le seul qui peut être prié et adoré. » Est-ce que c'est aussi ce qu'il y a dans nos bagages, dans notre vie, un encens qui monte en permanence parce que je te reconnais comme le seul digne d'être adoré? Et enfin, la myrrhe. C'était un produit qui était utilisé pour l'embaumement. Étrange pour des mages qui viennent d'apporter déjà le produit qui servira à embaumer celui qui sera cloué sur la croix et qui mourra pour les hommes. Mais il y a un geste prophétique. Et j'ai envie de dire, est-ce que nous sommes aussi des proclamateurs, des porteurs de cette parole? Il est mort pour nous. Il a été tué. Il a été crucifié et il est ressuscité le troisième jour. Mais nous portons ce message de la mort et de la résurrection de Christ. Quelles sont nos valises? De quoi avons-nous équipé nos vies aujourd'hui? Nous qui sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre. Père, donne-nous d'avoir cette conscience de notre voyage, ces pas que nous faisons, que nous sachions dans quelle direction ils nous conduisent vers toi, que nous ayons conscience de cette grâce qui nous est faite, de pouvoir nous diriger vers toi, que nous ayons cette joie sur le chemin, comme ces pèlerins d'Emmaüs qui ouvrent les yeux et qui rentrent à Jérusalem dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance. Donne-nous là aussi de porter dans nos bagages cette joie de la résurrection et de la vie. par ton Esprit Saint, Seigneur. Parle à nos cœurs. Amen.